Popopienne, Popopien et tous les autres aussi, bonjour, nous sommes le 30 décembre et en ce moment même sonne à la porte du studio 611 de la Maison de la Radio le 872e vendeur de calendriers de chatons pour cette nouvelle année. Alors je dis stop, arrêtons les calendriers de chatons et autres bonnes résolutions. En 2020, j'opte pour de mauvaises résolutions. En 2020, je veux manger plus gras, plus salé, plus sucré, arrêter de prendre des douches, mais juste des bains, ne plus me déplacer à vélo mais en 4x4, revendre mes toilettes sèches sur le bon coin et procrastiner encore plus. Enfin plus, sauf aujourd'hui bien sûr. Comme je ne peux pas remettre l'émission du jour à demain, je vous propose de réécouter l'écrivain américain le plus controversé de sa génération, une dessinatrice qui je pense n'aime pas non plus les calendriers de chatons et un groupe qui remet systématiquement à demain depuis 10 ans ses rendez-vous chez le coiffeur. Bon, pop 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 avec Bret Easton Ellis, Catel et les bébés brunes, c'est parti.
France Inter. Pop pop pop. Antoine de Paune.
Et bonjour Bret Easton Ellis.
Hello.
Bonjour. Bonjour, vous arrivez tout juste de Los Angeles. Merci d'avoir fait l'effort de venir nous trouver.
Je suis ravi d'être à Paris.
Pour vous traduire la voix française des Oscars, Robert Wolfenstein, c'est chic, non?
He's very helpful.
Il nous aide beaucoup.
He is my voice.
Ma voix donc.
Vous dites ça de vous-même, Robert, il nous aide beaucoup.
C'est vrai.
À mes côtés, vous avez votre Batman, j'ai ma Robin, Charline Roux. Bonjour Charline.
Je suis effectivement beaucoup plus sage. Bonjour Antoine. Bonjour Baptiste.
Hello Charline.
Alors, moins que zéro, American Psycho, Les Lois de l'Attraction, Glamorama, Lunar Park, Suite Impériale, tous ces titres sont gravés dans la pop culture et depuis quelques mois, on peut y ajouter... W-H-I-T-E, White, dont nous allons parler... Entre autres, Bret Easton Ellis, sachez qu'ici, il existe une question qui fait trembler tous nos invités. Et cette question, c'est... Pour vous, Bret Easton Ellis, c'est quoi la pop culture? Alors attention, parce que juste avec cette réponse, hein, nous pourrions faire un livre entier. Mais je vous écoute.
Écoutez, je ne sais pas si je fais le distinguo entre la culture et la pop culture, parce que dans les années 60, 70, quand j'ai grandi, quand j'étais gamin, toute ma culture, en fait, c'était la pop culture, la musique rock, le rock'n'roll, mais également les films de série B, des films de science-fiction d'un certain genre. Donc pour moi, j'ai grandi avec la pop culture, alors que mes parents et leurs parents, génération précédente avait une idée de la pop culture qui était plus bourgeoise, qui aspirait à une certaine forme artistique, qui faisait de vous quelqu'un d'une meilleure personne, qui vous humanisait à travers les romans, le théâtre, le cinéma, bien sûr, un certain genre de film. Et moi, par contre, j'ai pas fait cette distinction entre la culture et la pop culture. Pour moi, ça a toujours été la pop culture. Et pour moi, c'est quoi? C'est des super films, des super groupes, des super bouquins. Pour moi, c'était toute la même chose.
La pop, la culture et la pop culture, on en parle dans la suite de Pop Pop Pop, juste après Slumlord. C'est un morceau de Baxter Dury qui signe son grand retour.
Fresh honey, I'm the Milky Bar kid. Soiled trousers, shiny cheekbones like graveyards in the sun. Murder shoes, dirty eyes sizing up. Just don't say it. Sleepless angels have blessed us, and I'll shout you down in a slumlord way. Scary people saying silly shit.
Taps always dripping, sleeping in the day.
Baxter Dury, Slumlord, cet extrait de The Night Chancers qui sort dans 2 mois, au mois de mars. Vous écoutez Pop à Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et nous sommes aujourd'hui avec une icône pop qui déteste Harry Potter, adore Kanye West et aussi les chatons. Attendez, ça donne quoi si je mixe tout ça ? D'accord, c'est un peu étrange. Alors, qui est donc cet invité étrange ? Réponse avec son pop portrait. Alors, oui, son pop portrait, c'est son portrait, mais... Et il est signé Charline...
Aujourd'hui, un invité que je pourrais vous présenter en exerçant un esprit des plus sarcastico-vipérins sans qu'il n'en prenne ombrage, puisqu'il exerce le sien avec virtuosité depuis quelques années. Et aussi parce qu'il déplore le fait qu'aujourd'hui, ce genre de parole soit empêchée ou auto-censurée. On peut plus rien dire, sauf quand on est notre invité qui ne s'est jamais privé. On lui doit la paternité d'un anti-héros aussi génial que détesté, car psychopathe et meurtrier, le Patrick Bateman d'American Psycho, dont on se dit qu'il est peut-être bien le moule, la matrice brillamment anticipée par notre invité, de bon nombre de Golden Boys n'ayant de doré que le nom, pas la réputation et encore moins les exactions, dont le monde est aujourd'hui peuplé. On lui doit aussi les errances de Clay, ses angoisses existentielles, son héros Elvis Costello dans Moins que Zéro, la jeunesse que d'aucuns désigneront comme dépravée et les autres comme trop gâtée des lois de l'attraction, c'est lui aussi, tout comme les angoissantes et angoissé protagoniste de Glamorama, de Lunar Park, le retour d'Ensuite impérial du Clay précédemment cité. C'est pour un essai que ce libre penseur franc-tireur vient nous rendre visite aujourd'hui. Alors exceptionnellement, on pourra tout dire, mais juste ici.
Ok, et bien alors commençons. Donc, Bret Easton Ellis, vous adorez les chats et Kanye West, mais vous détestez vraiment Harry Potter.
Disons que je n'aime pas Harry Potter, mais j'aime beaucoup Kanye West. Alors, je ne sais pas d'où viennent les chatons. Quelqu'un vous a dit ça, je ne sais pas dans quelle note vous avez... Je déteste les chatons. Je ne veux pas être entouré de chatons. Si je vois un chaton qui s'approche de moi, je m'enfuis en courant. Qui a dit ça ? C'est pas possible.
Les chatons, non, non, c'est encore une de ces infos qui traînent, vous savez, qu'évidemment personne ne vérifie.
I like otters.
Mais par contre, j'aime bien les outres.
Les outres.
Otters.
Oh oui. Yes, oui. There's a lot of otter, il y en a beaucoup. Instagram, accounts that I like. Et puis sur Instagram, on en a des photos. Hein.
Et says the writer of American Psycho.
Ça, c'est l'auteur d'American Psycho qui vous le dit. Oui, des outres ou des phoques.
Des loutres, ouais. Loutres. Mais il y a même un mème qui est devenu très très célèbre de gens comparant Benedict Cumberbatch à une loutre.
Benedict Cumberbatch owns an otter in
oui,
a
une outre dans une émission, hein, c'est pas vrai.
C'est devenu c'est devenu un mème en fait. Beaucoup de gens comparent son physique à celui d'une loutre.
Voilà. Yes.
Ah, très juste, très juste.
Oui,
tout
this
à fait. Absolument. Oui. Alors, je suis pas un fan de Benedict. Je préfère l'outre justement. mais bon.
Bien, que lit Bret Easton ? Qu'écoute Bret Easton ? Que regarde Bret Easton ? La planète veut savoir. On va passer à sa pop liste. Bret Easton Ellis, nous vous avons demandé de choisir un livre, un film, une musique et une série culte. Pour le livre, votre choix s'est porté sur The Delivery Man, écrit par Joe McInnes Jr., dont c'est le premier roman, un livre paru en 2008. Charline, un roman qui tendrait à confirmer que ce qui se passe à Vegas a intérêt à rester à Vegas. La preuve ? D'ailleurs, il n'a toujours pas été traduit en français.
Mais on peut tenter un résumé. Sexe, drogue, mensonge et rêve brisé pour la génération MySpace, le tout dans la ville de tous les vices.
Bien. Bret Easton, auriez-vous l'amabilité de nous en lire quelques lignes, s'il vous plaît, pour qu'on en ait un aperçu ?
Yes, I will read a few lines, but I must say first
mais
of all that I was very
surprised.
Je dois
dire que j'étais tout à fait étonné par ce livre tout à fait excellent, néo-noir à Las Vegas. Après le crash américain, c'est des gamins qui ont décidé de créer une agence de prostituées et ce livre n'avait pas été publié. Moi, j'ai participé à l'écriture de ce livre et j'ai passé quelques années dessus, j'en suis très fier. Alors, je vais vous en lire un petit passage que l'on m'a donné à l'instant en me disant, c'est moi qui ai écrit ça ? C'est moi qui ai écrit ces lignes ? Et ensuite, je me suis dit, merde, j'ai vraiment écrit ces... Alors, j'étais très proche de l'auteur et j'étais associé à l'écriture de ce livre et j'espère que quelqu'un éditeur en France publiera ce thriller tout à fait passionnant.
Michelle is on her back, naked, her eyes closed. She's been in the same position for 15 minutes while the man, sunburned, a college ring, 50-something, tries to make her come. But he's clumsy and drunk and keeps asking her what she likes. Tell me what makes you feel good, he pleads. He's breathing heavily and says, I don't want to leave until you come. With his face pressed against her, he says, I shouldn't be here. And then the man asks her if he can please stay. He asks her if he can lie with her for a while. I've got more money. The man says that the next time he sees her, he will bring things for her to wear.
Robert, en deux mots.
En deux mots, une petite traduction. Michel est allongé sur son dos, toute nue, les yeux fermés. Elle est dans la même position depuis un quart d'heure, tandis que le bonhomme par-dessus elle, couvert de coups de soleil, qui porte une bagouze au doigt qu'elle a cinquantaine, essaie de la faire jouir, mais il est maladroit et complètement ivre, et ne cesse de lui demander ce qu'elle aime. Dis-moi ce que tu aimes, qu'est-ce qui te fait plaisir. Il lui supplie de lui dire, il respire, sa respiration est lourde et persistante, il dit « je ne m'en vais pas avant que t'aies joui ». Son visage pressé contre le sien, il dit « je ne devrais pas être ici ». Et puis ensuite, le bonhomme lui demande s'il te plaît, est-ce que je peux rester encore un peu. Il lui demande s'il peut rester allongé à côté d'elle encore un petit peu. « J'ai encore des sous, tu sais, j'ai encore des sous ». Le bonhomme lui dit que la prochaine fois qu'il la voit, il lui apportera des vêtements.
Merci Robert. Alors je précise bien qu'il s'agit d'un extrait de The Delivery Man hein, de Joe McInnes Jr. et non pas le récit des vacances de Robert Wolfenstein. Ça n'a rien à voir, ce Delivery Man, avec un film québécois qui raconte l'histoire d'un donneur de sperme, si je comprends bien.
The Delivery Man has nothing to do with what? Semen donor.
Ah, donneur de sperme. Non. Mais figurez-vous que j'ai vu un film pornographique qui fait intervenir un donneur de sperme. Un très bon film. Et puis j'ai vu Semen donneur de sperme. Le deuxième n'était pas bien, mais le troisième était génial. C'était une série de films absolument géniale. Je vous la recommande.
Et le quatrième sera excellent.
Espérons-le.
Bien. Kittens.
Mais les chatons, qu'est-ce que c'est que cette histoire de chatons?
Pour le film, vous avez choisi le cultissime Phantom of the Paradise, réalisé par Brian De Palma, sorti en 1974. Un film qui, le saviez-vous, a influencé notre mondialement célèbre duo électro Daft Punk, Charlie.
Effectivement, Antoine, c'est l'histoire de Winslow Leach, jeune compositeur qui tente par tous les moyens de faire connaître l'opéra qu'il a composé. Swan, le producteur et patron du label Death Records et promoteur du Paradise, palais du rock, cherche de nouveaux talents. Du coup, il décide de voler la partition de Leach. Il le fait enfermer pour trafic de drogue et défiguré, sans voix et brisé, Leach réussit à s'évader et revient hanter le Paradise.
20th Century Fox presents Phantom of the Paradise, a gothic horror story.
What was that?
A beautiful love story.
Like a circus.
A cinematic odyssey through the rock universe. From Greece to glitter. Phantom of the Paradise.
There really is the Phantom.
Phantom of the Paradise de Brian De Palma, le choix de Bret Easton Ellis dans sa pop list pour le cinéma. Est-ce qu'on vous diriez que c'est un des films qui ont forgé votre pop culture, une de vos pierres de rosette d'une certaine manière?
Oh, definitely.
Absolument, absolument. J'ai vu ce film à sa sortie et en fait j'en parle dans White, j'avais 10 ans, c'était en 1974 effectivement, et je me rappelle être allé tout seul au cinéma pour voir un film qui est quand même un petit peu bon, sexy, enfin un film à la... C'est une version rock'n'roll du fantôme de l'opéra en fait. À l'époque du rock, donc transposé. Alors, vous avez, à l'époque, c'était ce qu'on appelait les films PG, il fallait y aller accompagné de ses parents, maintenant c'est interdit au moins de 16 ans. Toujours est-il que c'était des films plus ou moins pour adultes, mais enfin, c'est la première fois que Brian De Palma avait un budget conséquent et. Toutes ces décorations, son style, tout cela a commencé à naître dans ce film. Et puis, il y avait une histoire de Paul Lee, le scénariste. Moi, j'ai adoré le film. En fait, je l'ai présenté au British Film Institute au mois d'avril, avant de venir ici en France. J'adore ce film. Je l'ai vu des dizaines de fois.
Bien, nous avançons dans la pop list de Bret Easton Ellis et nous passons à la série. Là, vous avez choisi Too Old to Die Young. C'est une série créée par Nicolas Winding Refn, disponible sur Amazon Prime Video depuis juin dernier. Charline, voilà une série qui a provoqué moult débats. Rappelez-nous.
Parce que, comme souvent, on a reproché à son auteur-réalisateur son côté arty-poseur. D'autres y ont vu une œuvre absolument radicale. Too Old to Die Young s'attache au quotidien dans les bas-fonds de Los Angeles d'un officier de police endeuillé après le meurtre de son coéquipier.
Society's falling. It's all collapsing around us. Soon our cities will be washed away by floods. Buried in sand. burned to the ground. That's why you found me. As the world fractures.
Le choix de Bret Easton Ellis, c'est sa série pour sa poplist Too Old to Die Young de Nicolas Winding Refn. Too Old to Die Young, trop vieux pour mourir jeune. C'est pour moi que vous avez fait ce choix, Bret Easton?
Mais non, détrompez-vous. C'est très drôle, mais non.
Vous savez,
c'est une série qui a enchanté tout un public. Il y a des gens qui l'adorent. C'est un peu clivant. Il y a des gens, par contre, qui le détestent. Ma pauvre maman, quand elle m'a entendu chanter des louanges de cette série, elle m'a appelé en disant « C'est la pire série que j'ai jamais vue. » Donc, c'est plutôt clivant. Mais j'ai des amis qui l'adorent. Les 10 heures de la série, ils sont absolument inconditionnels. Mais on ne peut pas séparer l'aspect artistique, prétentieux, et l'art réel. Chez Refn, tout se mélange. Et effectivement, il a filmé cette série comme une espèce de film de haut calibre, de grande qualité. Et cette qualité artistique, je ne l'ai jamais vue, très rarement, à la télévision. C'est quelque chose de très personnel. Et c'est dans les épisodes 4, 5 et 6 que la série trouve son apogée. On n'a peut-être pas besoin de voir les deux premiers épisodes, les 4 derniers, mais les 5 au milieu sont vraiment les meilleurs. Et Miles Teller, il est absolument génial. Et la cinématographie, la BO, peut-être pas pour tous les goûts, mais c'est vraiment mon choix culte maintenant.
C'est une série très clivante, hein, comme vous venez de le rappeler, qui a autant d'adorateurs que de gens qui la détestent. Ça vous rappelle de bons souvenirs ?
Ah oui, à chaque fois, des bons souvenirs. Et même le printemps dernier, quand j'ai publié White, c'était également très clivant. Ça m'arrive tout le temps. Quand je sors un bouquin, ça m'est toujours arrivé. Ça ne m'est jamais pas arrivé. Même less than zero, moins que zéro, la critique était déjà très, très divisée. Et il y avait des gens qui trouvaient ça génial et d'autres ne comprenaient pas comment un éditeur respectable pouvait publier le journal d'un drogué de 18 ans. Et ça, c'était les bonnes critiques, en plus.
Ça vous désole ou ça vous réjouit? Un jour, vous aimeriez faire l'unanimité ou pas?
Vous savez, je recherche pas les bonnes critiques. J'ai jamais écrit des bouquins pour avoir de bonnes critiques et j'ai jamais obtenu de prix en Amérique. Et ça fait 10 ans que je n'ai pas publié un bouquin aux États-Unis, de toute façon. Et je ne sais pas si ça compte tellement pour moi. Moi, ce qui m'intéressait, c'était d'écrire les livres que je voulais écrire. C'est ça qui compte. J'écris pas, en tout cas, aux États-Unis, vous avez des écrivains qui sont adulés. Bon, je ne fais pas partie de ce club-là. Vous en avez d'autres qui sont, je cherche les mots, donc qui sont adorés par les critiques. Mais bon, c'est comme ça.
Bien, terminons cette pop list, Bret Easton Ellis, avec votre chanson, la chanson culte que vous avez choisie, et c'est celle-ci. Dangerous Type des Cars, sorti en 79 sur l'album Candy Ho. C'est un choix qui sonne comme un hommage, j'imagine, à Rick Ocasek, le leader du groupe qui vient de nous quitter.
I cheated on the cult question.
J'ai triché sur cette question-là. Pourquoi ? Parce que, en fait, la chanson que j'aurais choisie s'appelle Where Am I Gonna Run To ? C'est un artiste complètement inconnu qui s'appelle Ryan Down. Et ça, c'est une chanson que j'adore vraiment. Mais effectivement, Rick Ocasek est mort la semaine dernière. Il a fait partie de mon adolescence. Les premiers disques des Cars, et Candy Ho, m'ont vraiment complètement époustouflé. Et bon, c'est peut-être une raison sentimentale qui m'a amené à choisir une chanson des Cars. Mais enfin, c'est quand même marrant. C'est pas une chanson culte. Pourtant, ils ont vendu des millions d'albums. Le premier album, déjà 6 millions. Heartbeat City en a vendu 7 ou 8 millions. Et pourtant, je sais pas. J'étais dans un état d'esprit un peu sentimental. J'ai voulu effectivement rendre hommage à Rick Ocasek. Et bon, The Dangerous Type, c'était la chanson qui me venait à l'esprit.
Vous voyez, Charlene, je vous le disais, Bret Easton Ellis peut être très sentimental aussi.
J'ai aucun doute à ce sujet.
Bien, alors je résume. The Delivery Man, Phantom of the Paradise, Too Old to Die Young et les Cars. Je mets tout ça dans mon mixeur de pop culture et ça nous donne ça.
20th Century Fox presents...
What was that?
a beautiful love story.
Society's falling. It's all collapsing around us.
She's been in the same position for 15 minutes while the man tries to make her come. Tell me what makes you feel good, he pleads.
That's why you found me.
Phantom of the Paradise.
There really is the Phantom, Phantom, Phantom.
Et nous voici un peu dans la tête de Bret Easton Ellis, hein, ce 19 septembre 2019. Ça va, vous vous y retrouvez ou...
yes, I do.
Oui, je m'y retrouve. C'est curieux, mais oui. C'est un peu comme un reflet, un miroir qui réfléchit mon image.
Est-ce que ça doit nous rassurer? Je ne suis pas sûre.
You know, you should be reassured.
Non, si ça devrait vous rassurer. Ne vous inquiétez pas. Ou alors assuré, je ne sais pas ce qui vaut mieux.
De toute façon,
non, vraiment, c'est sincère. Et je persiste et signe. Pour moi, c'est pas, en fait, pas des œuvres cultes, comme on disait au début. Ce sont des œuvres que j'aime vraiment, Et peu importe qu'elles soient pop ou non.
Alors, je sais que dans votre tête, il y a aussi du Public Enemy. Le Public Enemy qui figurait sur la BO de l'adaptation au cinéma de votre premier roman, Less Than Zero, c'était Bring the Noise. Eh ben, on écoute ça tout de suite.
Yo, Chuck, these early drippers are still front on us. Show them that we can do this, cause we always do this. Ha ha, yeah, boy.
Bass, how low can you go? Death row, what a brother know. Once again, back is the incredible rhyme animal, the uncannibal thief. Public Enemy number one, 5-4 said freeze, and I got numb. Can I tell them that I really never had a gun? But it's the wax that the Terminator X-bun. Now they got me in a cell, cause my records they sell. Cause a brother like me said, well, Farrakhan's a prophet and I think you wanna listen to what he can say to you. What you wanna do is follow for now. Hell, what the people say, make a miracle, keep up the lyrical. Black is back, all in, we're gonna win, check it out.
Yeah, yo, come on.
Here we go again. The brother is madder than mad at the fact it's corrupt like a senator. Soul on the road, but you treat it like soap on a rope, cause the beats and the lines are so dope. Listen for lessons I'm saying inside music that the critics are blasting me for. They'll never care for the brothers and sisters. Why, cause the country has us up for the war. We got to get them straight. Come on now, they're gonna have to wait till we get it right. Radio stations are questioning blackness. They call us a black, but we'll see if the latest. My DJ is warm, he's sick. I call him Norm, you know. He could cut a record from side to side. So what the ride, the glide, what should be safer than a suicide? Soul control beat is the father of your rock and roll. Music for watching, for witching. You call a band, man, making the music of music. But you can't do it, you know. You call them demos.
But we ride demos too.
What you gonna do? Rap is not afraid of you. Beat is for Sonny Bono.
Beat is for Yoko Ono.
Run the MC first, and the DJ could be a band. Stand on its own feet. Get you out your seat. Beat is
for Sonny. Le Maxi Best Pop Pop Pop. Antoine de Caunes.
C'est une journée spéciale dans l'histoire de Papa Pop, puisque nous recevons aujourd'hui un maître, Bret Easton Ellis. Et nous sommes ici aujourd'hui avec lui pour parler de White, un essai et non pas un roman, puisqu'il n'en a pas publié depuis 9 ans. Mais, Bret Easton Ellis, vous restez fidèle à votre légende, et ce n'est bien sûr pas un essai comme les autres. Vous aimez bien provoquer, penser de côté, remettre en cause les postulats de la pensée dominante, et toujours avec un humour noir et acide. Par exemple...
Bon, on peut lire sous votre plume, j'ai fini par comprendre que je n'étais pas vraiment bon pour reconnaître ce qui mettait en rogne ou pas les gens, parce que l'art ne m'a jamais offensé, fin de citation. Est-ce que vous avez fait quelques progrès de ce côté? Est-ce que vous pensez pouvoir tenir l'heure sans nous choquer?
I think what I was trying to say in
en fait, ce que je disais dans ce passage, c'est que moi, ce qui me choque, ce qui m'effraie, c'est que vous avez des gens... Alors, c'est toute petite minorité de gens qui décident de ce que l'on a le droit de voir, ce qu'on n'a pas le droit de voir, ce qu'on a le droit d'écouter, ce qu'il ne faut pas écouter, quelles formes d'art sont acceptables et lesquelles ne le sont pas. Et ce qui se passe maintenant, c'est une forme de puritanisme, en fait. Alors, il ne s'agit pas de nous protéger du sexisme ou de l'homophobie ou du racisme. Non, c'est l'idée de rester un enfant tout le temps et de ne jamais traiter, gérer les complexités du monde adulte. En fait. Et en fait, je ne sais pas si ces gens se soucient de l'art ou ils connaissent quoi que ce soit. C'est des espèces de buzz qui circulent. Hein. Alors, c'est une espèce d'un état d'esprit naïf. C'est-à-dire que si on représente du racisme, on est raciste. Si on présente du sexisme, on est sexiste. On voit jamais, les gens ne reconnaissent même pas la métaphore ou le deuxième degré. Ça pose problème. Et j'en parle justement dans White, et c'est quelque chose qui me rend un peu perplexe, parce qu'il y a des choses qui peuvent me choquer. D'ailleurs, je ne demande pas mieux que d'être choqué par l'art, mais pour moi, l'art ne peut pas vexer, blesser, offenser. Il faudrait qu'il soit régulé, faire l'objet de réglementations. Alors moi, ce qui me choque effectivement, c'est lorsqu'on décide de couvrir des tableaux ou lorsqu'on veut interdire des spectacles parce qu'on pense qu'il y a du racisme. C'est arrivé d'ailleurs sur HBO l'année dernière. Voilà, je pense un peu différemment, disons.
Bret Easton Ellis, il y a un mot dont l'importance est centrale dans la culture américaine d'aujourd'hui, c'est le mot « trigger », déclencheur en français. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que sont ces déclencheurs et ce que ça veut dire que déclencher quelqu'un ?
Well, you triggered me earlier.
Tout à l'heure, vous m'avez déclenché avec cette histoire de chatons. Hein, ça m'a déclenché. Alors, je ne sais pas comment les chatons sont rentrés dans la conversation, ou même la notion même de chaton est venue associée à mon nom. Ça m'a déclenché. Mais la même chose se passe dans la culture américaine, lorsqu'on parle de certains films, de certaines chansons. Il y a un exemple. Alors, il y a des gens qui pourraient trouver des plaisanteries inacceptables. Certaines personnes pourrait se choquer ou ça pourrait les déclencher. Ça pourrait déclencher justement ou rappeler des mauvais souvenirs au sujet de quelque chose. Il y a des grandes universités aux États-Unis, vous avez des professeurs qui sont obligés d'annoncer les déclenchements, les triggers, qui sont dans les manuels avant même qu'on ouvre le livre. Je ne sais pas, le livre Moby Dick, si vous aimez les baleines, ça peut vous déclencher parce qu'on chasse la baleine dans ce bouquin. Et jusqu'à Shakespeare. Alors voilà, c'est ça le déclenchement. Et ça, il faut vraiment s'en débarrasser.
Mais est-ce qu'on ne peut pas aussi se dire que peut-être, comme tous les adultes, vous avez un peu perdu de votre capacité d'indignation ?
Peut-être qu'avec l'âge, on s'endurcit, on est un peu blasé, on perd la capacité de s'indigner, peut-être, mais en réalité, moi, ce qui me choque de plus en plus, c'est la stupidité des gens, hein, et c'est ça qui m'indigne, et ce qui me choque aussi, c'est de voir la stupidité. Autrefois, je ne pensais pas dans ce genre de choses, mais effectivement, c'est des pensées qui vous viennent quand on vieillit. Hein. On n'est peut-être pas choqué ou indigné, mais on est un peu attristé de voir la stupidité profonde des gens.
Et on a aussi le sentiment, Bret Easton Ellis, dites-moi si je me trompe, que vous prenez un malin plaisir à déclencher tout ce qui relève du politiquement correct.
Alors, déclencher les bien-pensants, c'est vrai que c'est sympa. C'est vrai que c'est marrant. Et d'ailleurs, je m'en ai parlé dans ma tournée. C'est comme si vous mangez le glacis sur le gâteau. Hein, et les gens sont furieux parce que c'est des choses qui ne devraient pas les déranger. Et pourtant, c'est peut-être un malin plaisir. Enfin, c'est pas ma raison d'être. C'est pas la raison pour laquelle j'écris. J'écris pas pour choquer les gens, pour les offenser. Mais c'est pas le but du jeu. Mais si les gens se sentent déclenché, offensé par ce bouquin. C'est le cas de nombreux millénials ou même des gens qui soutiennent Trump. Lorsqu'on présente quelque chose, c'est de Trump, ça les déclenche aussi. Mais moi, je n'ai pas cherché, je ne suis pas un provocateur, je ne cherche pas à choquer, offensé, je ne suis pas un provocateur dans l'âme, mais c'est quelque chose qui arrive dans mes bouquins. Si je le voulais vraiment, j'aurais abordé ce métier différemment. J'aurais écrit 10 American Psycho, je les aurais rendus bien plus courts.
Mais vous dites ne jamais avoir voulu choquer, sauf si on vous lit dans White sur les réseaux sociaux, puisqu'on vous écrivait « Twitter encourageait le mauvais garçon en moi et j'aimais Twitter pour cette raison en 2012 ». Alors, quid de 2019? Comment est-ce que vous qualifiez aujourd'hui vos pratiques numériques?
Twitter was very fun. Twitter was sympa.
C'était vraiment effectivement ce qui nous encourageait à être le bad boy, le mauvais garçon. C'était un petit peu le Far West au début où tout le monde pouvait raconter des blagues absolument innommables ou dire des choses qui étaient complètement inacceptables. Et Twitter encourageait. Initialement, Twitter avait été conçu pour ça. On avait 140 caractères et on essaie de dire la chose la plus dingue possible en 140 caractères. Alors, ce n'est pas le même état d'esprit quand vous êtes sur un bouquin ou un roman sur lequel vous travaillez pendant des années. On ne peut pas garder ce rythme. Mais Twitter était parfait dans ce format-là. Mais c'est vrai, je ne pratique pas Twitter autant qu'autrefois parce que maintenant, c'est vraiment toxique. C'est vraiment un environnement toxique et 90% de cet environnement est négatif. Alors, on peut s'en servir pour faire de la pub, par exemple pour mon podcast, ou on peut s'en servir pour, je ne sais pas, mais pour exprimer des idées ou participer à la conversation générale, c'est nul, Twitter, c'est complètement nul.
Bret Easton Ellis, la pop culture, notre objet ici, a longtemps été un bastion de résistance et de subversion. Et c'est largement plus policé aujourd'hui. Où se sont déplacés les provocateurs aujourd'hui, à votre avis?
Je ne sais pas où ils sont passés. Je ne sais pas. Ce qui est curieux, c'est que Trump est peut-être le provocateur par excellence. Pourquoi? Parce que c'est un peu comme du punk rock. Tout le monde devient dingue en l'écoutant, et peut-être qu'on lui donne trop de pouvoir en lui permettant d'être aussi un, je ne sais pas, horrifiant, en lui accordant tellement d'importance. Mais il y a des factions différentes. Vous avez à l'extrême gauche ce qu'on appelle la gauche crasseuse, on peut dire, qui se roule dans une espèce de fange avec un certain plaisir, que je préfère à l'extrême droite, franchement.
Bret Easton Ellis, vous restez avec nous. On est en direct sur France Inter. Il est 16h42 et c'est l'heure d'écouter un des groupes que vous avez aimé, les Bangles, et ce morceau Manic Monday. Bangles dans Pop Pop Pop. Nous recevons aujourd'hui Bret Easton Ellis, venu nous parler de White, son livre, son essai, paru chez Robert Laffont. Et nous sommes ravis d'avoir Bret Easton Ellis dans ce studio. Bret Easton, j'ai été très surpris de lire autant de commentaires sur le cinéma dans White. Est-ce que vous avez toujours été un aficionado de cinéma ?
I wish there were more comments about movies in White.
Il faudrait qu'il y ait... J'aurais dû en mettre plus. En fait, à l'origine, il y avait davantage de commentaires sur le cinéma, mais c'est mon éditeur qui m'a décidé, qui m'a demandé d'en enlever. Alors peut-être que j'en mettrai davantage dans mon prochain livre. Moi, j'adore le cinéma. C'est vrai que le cinéma a joué un rôle important dans ma vie, à telle enseigne que je ne pouvais pas ne pas en parler. Alors, c'est un peu des mémoires, mais enfin, il faut relier cela à mes propres pensées sur le processus d'écriture, l'écriture de American Psycho, le film dont s'inspirait... qui s'est inspiré plutôt, qui s'est basé sur Lesson Zero, la vie dans les années 80 à New York, le 11 septembre, toutes les errances autour du Trumpisme et mes relations avec mes copains de l'époque. Enfin, le cinéma était toujours à l'arrière-plan de cette vie américaine et le cinéma a toujours compté pour moi. D'ailleurs, le fait que j'ai grandi dans l'époque dorée du cinéma des années 70 explique pourquoi il y a une telle relation avec le cinéma.
J'ai une question mummy porn. Est-ce que vous avez réellement lutté pour participer à l'adaptation au ciné de Fifty Shades of Grey ? Quelle qualité littéraire, sociétale, est-ce que vous lui avez trouvé au point de vouloir en être ?
Alors, je ne sais pas s'il y avait une qualité littéraire dans 50 nuances de gris, mais l'histoire était sympa, je trouvais. Et alors, c'est vrai, certains ont trouvé que c'était un petit peu gênant de me mettre sur Twitter pour essayer d'être l'adaptateur de ce roman. Mais enfin, c'est une histoire de deux jeunes gens. Enfin, on raconte une histoire d'amour, finalement, en 6 ou 7 escapades sexuelles. Enfin, bon, alors, la première est très innocente, et puis ça devient un petit peu plus sombre et puis à la fin la fille doit partir parce que l'homme n'arrive pas à se maîtriser et il faut qu'il l'emmène dans la chambre rouge ou enfin, je ne sais plus. Enfin, je trouvais qu'il y avait quelque chose de très puissant là-dedans. La façon dont le sexe est écrit, évidemment, est un petit peu bancal, un peu maladroite et l'histoire ne tient pas toujours debout. Mais enfin, souvent les films, l'histoire ne tient pas debout non plus. Et moi, je pensais faire mieux. Mais enfin, ça ne s'est pas fait. Quelqu'un d'autre l'a fait.
Tiens, à propos d'histoires qui ne tiennent pas debout, je crois que Kanye West voulait que vous écriviez un film dont le pitch est très particulier. Ça racontait une scène qui se passe sur une planète sur laquelle les lamas sont utilisés comme devise. Où en est ce projet ?
Kanye. J'adore Kanye West. Vraiment, j'adore. Je trouve que c'est quelqu'un d'absolument génial. Alors, il m'a demandé d'écrire un film pour lui qu'il allait produire. Alors, effectivement, j'ai raconté ça à quelqu'un il y a une fuite. Oui, ça se passe sur une étrange planète. Et effectivement, on se sert de lama comme monnaie et tous ceux qui travaillent dans ces mines d'épices, enfin, mais pas pour extraire des épices, mais des couleurs. Enfin, c'est un peu spécial. Toujours est-il que j'ai eu cette conversation avec Kanye et il y avait d'autres producteurs avec lui et il nous dit, mais on peut faire ce film, enfin, il y a 300 lamas dans ce film. Et c'est là qu'il dit, voilà, c'est la raison pour laquelle je veux faire ce film avec les lamas. Enfin bon, parenthèse, toujours est-il qu'on y a pensé. On a travaillé sur d'autres projets aussi, d'autres scénarios. Mais enfin, il n'en a rien sorti, mais c'est toujours sympa de travailler avec lui.
Et pour continuer sur le cinéma, dans un tweet daté du 13 août, vous écrivez, je cite, « The best American movie of the year » pour parler de « Once Upon a Time in Hollywood ». Pourquoi ce Tarantino-là recueille vos faveurs ?
I don't know.
Je sais pas. Il se trouve que c'est comme ça. Il y a quelque chose dans ce film qui, pour moi, enfin, ce film, c'est du cinéma à l'état pur. Vous avez du Tarantino qui fait un film hommage, un film mémoire. C'est pas un film, c'est un film un peu sur son enfance. Et c'était aussi ma propre enfance, mon même âge. Et donc, je connais ce Los Angeles de 1969. C'est peut-être pour ça que j'aime le film, mais j'aime aussi ce film parce que c'est un Tarantino plus soft, plus doux. Et c'est son amarre-corde. La nuit américaine de Truffaut, enfin c'est Fellini, c'est Truffaut, c'est son film très personnel, disons, sur la vie à Los Angeles dans les années 60 quand on est jeune, et même quand on voit la deuxième fois, c'est encore mieux.
Bret Easton Ellis, un de mes amis américains, tout comme vous, était punk dans le Los Angeles du début des années 80. Tout comme vous, il allait aux concerts de groupes comme X ou les Go-Go's, et il me dit toujours que s'il voulait être punk aujourd'hui, ce qu'il pourrait faire de plus rebelle, de plus dangereux, ce serait de professer des opinions conservatrices. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ?
I don't know.
Là, je ne sais franchement pas. Là, franchement, je ne pourrais pas vous dire.
I would think that,
ce que je me dis, c'est que le punk des années 80, effectivement, était un peu clivant parce que vous aviez des groupes qui étaient très conservateurs et d'autres qui ne l'étaient pas. J'avais quelqu'un qui était un joueur de basse pour les Vandals. Et Orange County, en Californie, c'était un bastion du Parti républicain dans les années 80. Alors qu'aujourd'hui, je ne sais pas où ils en sont. Il me semble que tous ceux qui sont dans le secteur du divertissement, dans la corporation du divertissement doit se trouver à gauche nécessairement, ce n'est pas particulièrement utile ni intéressant, mais disons que ce n'est pas très inclusif d'une certaine façon. Mais franchement, je ne sais pas ce qu'on peut penser de cela. Ce serait bien qu'il y ait davantage une diversité d'opinions dans le monde du divertissement qu'il y en a actuellement. Ah, peut-être que les choses vont changer. Hein. Je sais que David LaChapelle avait fait une émission spéciale sur Netflix qui a été très suivie, alors qu'il évidemment attaquait la bienséance et le politiquement correct. Mais il faut bien se rendre compte que c'est la gauche qui a créé la nouvelle culture.
Pour finir, Bret Easton Ellis, il y a une citation de Groucho Marx que j'adore et qui me fait un peu penser à vous. Il disait: je ne voudrais pas faire partie d'un club qui m'accepterait comme membre. Est-ce que c'est une réflexion que vous pourriez faire ?
Moi, je ne voudrais pas faire partie d'un club qui m'aurait pour membre. Groucho Marx, en effet. En fait, je ne sais pas si je me reconnais là-dedans, parce que, disons qu'à ce stade, quand même, j'aimerais faire partie d'un club qui aurait des centaines de gens comme moi, ou peut-être des milliers de gens comme moi. Et pas de chatons, hein, surtout pas de chatons.
Ça, il n'y aura pas de chatons, on vous promet. Le livre s'appelle White, il est édité chez Robert Laffont. L'auteur, c'est évidemment Bret Easton Ellis, c'était notre invité aujourd'hui. Nous sommes absolument ravis de vous avoir sur ce plateau.
Le Maxi Best Pop 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 sur France Inter.
Paris, prénom et roman des Goscinny sont les résultats qui tombent en premier quand on tape votre nom sur Google, Catel. Et ça tombe bien aujourd'hui, on va parler du roman des Goscinny avec vous. Et ce n'est pas le roman de Goscinny, mais des Goscinny. Car vous l'avez fait avec Anne Goscinny en découvrant qu'à travers la vie de René, c'est le roman de la famille Goscinny qui était le véritable sujet au fond. Alors, il n'empêche, rendre cet hommage à Goscinny n'était pas seulement nécessaire, il était indispensable, dites-vous. Pourquoi ? Il n'occupe pas la place qu'il mérite ?
Mais en tout cas, ces personnages occupent la place qu'ils méritent. Hein. C'est des personnages cultes, que ce soit Astérix, comme on le disait, Lucky Luke, le petit Nicolas. Tout le monde connaît un peu, surtout Astérix, le connaît mondialement. Hein. Jusqu'à It's No Good, d'ailleurs. Mmh. Et puis, on ne connaît pas trop la vie des auteurs. Hein. Goscinny, je ne suis pas sûre que tout le monde sache qui c'est, même si ce nom, on l'a entendu. Et alors, on sait encore moins quel type de vie il a eu, et surtout sa jeunesse. Parce qu'éventuellement, on connaît Goscinny à partir de la création de Journal Pilote, qui a révélé des grands auteurs de bande dessinée contemporains.
Une véritable révolution. Là.
Une véritable révolution, puisque c'est vraiment le moment où la bande dessinée est devenue un art adulte, hein, dans les années 60. Et avant, la vie de Goscinny, on ne sait pas très bien. Et moi-même, je ne savais pas grand-chose, en fait. Et c'est grâce à Anne, cette rencontre, et tous les documents qu'elle m'a fournis pour raconter cette vie, que j'ai appris énormément. Alors, bien sûr, j'avais lu des biographies, notamment celle de José-Louis Boquet, dont je suis proche, qui avait écrit sur lui. Donc, je n'étais pas non plus un culte sur l'histoire. Mais il y avait beaucoup de choses que je n'avais pas vues. Simplement, les dessins, par exemple. Je ne savais pas qu'il était dessinateur. Et Anne m'a mis à disposition les originaux de son papa. Et donc, j'étais frappée par la qualité de son dessin. Parce que souvent, on a dit que ce n'était pas forcément un bon dessinateur et qu'il avait choisi de faire du scénario parce qu'il était vraiment tellement lamentable dans ses dessins. Et pas du tout, du tout. Il dessinait très bien. Malheureusement pour lui, il a rencontré des génies du dessin très rapidement, que ce soit Uderzo, Maurice, Sempé, évidemment, ou Franquin ou d'autres. Et ça l'a calmé. Alors, il s'est dirigé vers le scénario où il était justement génial, mais il a aussi travaillé de façon Stakhanovitch pour progresser, parce que c'est pas non plus venu comme ça subitement. C'était des années de travail.
Rien ne vient comme ça.
Vous placez d'emblée le livre sous le signe du duo, celui que vous formez avec Anne Goscinny. Est-ce que c'était aussi pour faire écho au mode de fonctionnement de Goscinny père, qui lui aussi a beaucoup travaillé de cette manière ?
Alors au début, c'était pas du tout pour faire un duo avec Anne, c'était parce que Anne m'avait touchée, je lisais ses livres et que je pensais, et elle me l'avait proposé, me donner beaucoup de documents, ce qui s'est passé, et elle m'en a donné tellement que ça a pris pas des semaines et des mois, mais des années pour arriver à mettre les phrases de son père dans sa bouche, mais en enfilant des perles pour faire un collier et faire toute une voix. Donc c'est Goscinny qui se raconte par lui-même. Il omet cependant certaines choses très importantes dans sa vie, de façon volontaire ou involontaire, mais par exemple, il ne parle pas de la Shoah, ce qui vient quand même d'une famille juive d'Europe de l'Est, qui a débarqué en France au début du siècle, persécutée en Europe de l'Est. Et puis, son père, qui est ingénieur chimiste, part en Argentine avec son frère, sa mère, dans les années 20-30. Et puis après, son père meurt, il part à New York. Enfin, il n'arrête pas de voyager, mais il échappe de cette façon-là au massacre qui se passe en France, où les trois quarts de sa famille sont déportés dans les camps à Auschwitz. Mais c'est extrêmement douloureux pour lui, et il occulte complètement cette période de sa vie, il n'en parle pratiquement jamais. Et c'est là que la parole de Anne prend le relais, elle m'explique, elle me donne des documents sur ce qui s'est passé, et je peux raconter et dénouer en fait toute cette histoire très sombre, mais qui donne aussi une espèce de force à son père, cette sorte de désespoir en fait qui lui donne cet humour aussi fort. Hein. Et il dit d'ailleurs qu'au début, l'humour est une défense, parce qu'il est très timide, mais très vite elle devient une arme. Parce qu'il s'en sert pour attaquer à sa façon, de façon pacifiste, en faisant des caricatures et en racontant des choses sous le biais de l'humour. Voilà pourquoi la parole d'Anne m'est importante, et au fur et à mesure on devient amis, et vient l'idée du binôme bien plus tard.
Mais alors vous qui justement avez consacré énormément d'ouvrages aux grandes figures féminines, est-ce que vous diriez que s'il n'y avait pas eu Anne Goscinny pour vous aider dans cette tâche, vous seriez lancé quand même ?
Eh bien je crois que non. Je pense que s'il n'y avait pas eu la rencontre d'amitié avec Anne, je ne serais pas forcément allée vers ce sujet-là. Maintenant, je me rends compte qu'il est extrêmement important, ce sujet. Bien sûr, j'avais plutôt l'envie de faire un essai sur Claire Bretécher, qui était mon modèle féminin, si vous voulez. Mais il se trouve que Claire Bretécher, justement, c'est Goscinny qui lui a mis le pied à l'étrier, qui lui a écrit ses premiers scénarios, et qui l'a signé dans Pilote, et qui en a fait une des auteurs majeurs de la bande dessinée. Il n'y aurait pas de Claire Bretécher sans René Goscinny. Donc c'était tout à fait normal, en fait, de rendre hommage à René.
Alors Goscinny devient donc à son tour un héros de BD, c'est ce qu'on appelle une mise en abîme, d'autant plus que vous, la dessinatrice et auteur, vous vous mettez également en scène dans l'histoire. Est-ce que ça rend la narration encore plus périlleuse ?
Ah oui, bien sûr, parce qu'il fallait que je trouve un moyen de raconter cette grande histoire. Et donc j'ai la parole de René d'un côté qui fait un chapitre, puis j'ai la parole d'Anne. Mais Anne, comment, à qui elle parle ? Il fallait bien qu'il y ait un Tintin reporter qui vienne lui demander. Et finalement, c'est moi, je me mets en scène, comme j'ai pu le faire aussi quand j'ai rencontré Benoît de Groulx, et qu'il fallait aussi me mettre en scène. Malheureusement, j'avais pas spécialement envie de faire ça, même pas du tout, mais j'étais bien obligée de la faire parler à quelqu'un. Ouais. Donc je me suis mise en scène et je me mets en personnage de BD aussi avec Anne. Voilà, et on a un chapitre sur deux, c'est nous, et elle me raconte et je lui pose des questions, elle me montre des choses.
Mais c'est ce qui fait la force aussi de la narration, parce qu'il y a tous les croisements de points de vue. Du coup, ça part dans tous les sens, et en même temps, c'est très axé.
Oui, puis au-delà des croisements de points de vue et de dialogue, dans le livre, on trouve aussi citations, archives, lettres, dessins. Quelle méthode est-ce que vous avez adoptée pour tout organiser ?
Ben ça s'est organisé petit à petit chronologiquement parce que j'avançais dans ma narration.
De manière empirique, pas du tout avec un...
Non, ça s'est fait de façon empirique, mais chronologique parce qu'on se voyait tout le temps avec Anne régulièrement, puis on partait dans sa maison du Sud toutes les deux, on parlait beaucoup, elle me sortait les documents au fur et à mesure dont j'avais besoin dans l'évolution de la narration. Et d'ailleurs, cette évolution chronologique correspond à l'évolution de notre amitié aussi. Parce qu'au début, on s'apprécie, on s'aime beaucoup, on a un coup de foudre d'amitié. Mais petit à petit, ça devient quelque chose de très profond. On se livre beaucoup l'une à l'autre. On se connaît bien. Elle me fait rigoler. Et je me rends compte que Anne, qui écrit des livres très durs, très noirs chez Grasset, que j'adore, parce que j'ai toute la collection. Mais je me rends compte que dans la vie, c'est quelqu'un d'hyper drôle. Pendant les vacances, elle fait rire des tablées entières d'amis, de famille et nos enfants ensemble. Et je lui dis à un moment, mais faut que t'écrives des trucs rigolos. C'est pas possible. C'est ton père réincarné. Et elle me répond, ça jamais. Hein, parce que quand on est la fille de Mozart, on se lance pas dans l'opéra.
Lisez le roman des Goscinny de Catel. Ça s'appelle Naissance d'un Gaulois, c'est édité chez Grasset et c'est un véritable délice. Les bébés s'assoupissaient un petit peu, là, je voyais bien à côté des fenêtres.
51, 52, 53.
Pas du tout. Vous nous avez promis un live, messieurs, dans ce studio. Donc il est temps de rejoindre la scène mythique de Pop Pop Pop, allez-y.
Ce n'est que dans tes bras, l'éternité est une ville inhabitée. Oui, l'éternité est une ville inhabitée. Mais quand je sens ton cœur battre contre moi, j'oublie que dans ce monde c'est chacun pour soi, que l'immensité l'immortalité est une impossibilité. Que l'immortalité est une impossibilité. Si l'existence n'a pas de sens, sinon la vue, le goût, lui, le toucher, et on se dira n'importe quoi, et on ira toutes les nuits danser. Petite cette vie, c'est du charabia. Il y a tant de choses qu'on ne comprend pas. La vérité est une garce déguisée. Et la réalité est une tristesse avouée. Mais quand je sens ton souffle chaud contre moi, toutes mes questions s'envolent vers l'au-delà. Le paradis est né dans tes cheveux orangés. Le paradis est né dans tes cheveux orangés. Si l'existence n'a pas de sens, sinon la vue, le goût, lui, le toucher, et on se dira n'importe quoi, et on ira toutes les nuits danser. De sens, sinon la vue, le goût, lui, le toucher, on se dira n'importe quoi, et on ira toutes les nuits danser.
Bravo! Bravo messieurs, Charabia. Merci. Sur la scène de Pop Pop Pop, cet extrait du cinquième album des Bébés Brunes. Merci infiniment pour cette version acoustique. Merci à Bret Easton Ellis, Catel et aux Bébés Brunes pour ce dernier maxi Best Pop. Merci aussi bien sûr à toute l'équipe de Pop Pop Pop. On se retrouve demain avec une nouvelle émission avec Attention c'est chic, Timothée Chalamet, Louis Garrel, Greta Gerwig, la réalisatrice du film Les filles du Dr March qui sort dans 2 jours. Mais avant demain, si vous avez aimé l'émission, retrouvez-la sur franceinter.fr. Et si vous êtes un Jones 3.0, un Yeuve ou une Yeuvesse à la pointe, suivez-nous plutôt, comme dit Kendall Jenner à la fin de ses tutos comment être chic en restant discrète sur YouTube. Voilà, et suivez-nous sur les internets comme disent les millennials, 3615 pop 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 sur Instagram et